Tout grand merci, Victor, pour cette introduction et surtout un tout grand merci pour cette invitation. Inimagine ambulat homo. L'homme marche dans l'image. C'est par cette phrase de saint Augustin que j'ai, vous l'avez constaté, rebaptisé cette communication, ou à tout le moins une partie de son titre. Citation que je vais tirer au-delà de son contexte d'origine, afin de rendre compte d'une certaine condition pérégrine de l'image européenne au premier âge moderne, et cela à travers le médium de la gravure, médium qui s'est révélé être un puissant connecteur et un efficace vecteur dans la mobilité non plus des artistes, mais de leurs œuvres, et plus fondamentalement, aspect quelque peu négligé par rapport aux deux autres, les artistes et les œuvres, également dans la fondation d'une certaine culture visuelle européenne qui, comme nous allons le voir, trouve pour une bonne part son origine à Anvers. On pourrait en effet parler de cette ville des anciens Pays-Bas méridionaux comme l'un des principaux, et j'en prends une expression anglaise, « broadcast center » de l'époque, c'est-à-dire l'un des principaux émetteurs et diffuseurs des images imprimées à l'échelle européenne mais aussi mondiale. Avant d'envisager le rôle de cette ville et de ses graveurs dans l'invention de ce qu'on pourrait appeler une koiné graphique, rappelons le sens précis de la formule d'Augustin, qui n'est à vrai dire qu'une reprise du verset 7 du psaume 39. Inimagine per transit homo. Il est d'abord intéressant de remarquer que la plupart des traductions françaises, et cela depuis le XVIe siècle, ont remplacé le mot « image » par le mot « ombre ». Cela donc afin de bien marquer la condition déchue de l'homme qui passe sur terre comme une ombre. Il est aussi intéressant de souligner que certains traducteurs, comme Isaac le maître de Sacy dans sa traduction des psaumes en 1665, cherche à conserver le sens de la préposition « in ». Je cite la traduction du maître de Sacy, « L'homme passe sa vie dans des ombres et dans des images ». Traduction qui, outre le fait de passer au pluriel l'ablatif singulier, « inimagine », présente l'intérêt d'opérer un déplacement depuis la dimension ontologique, le fait que l'homme a été créé à l'image et la ressemblance de Dieu, vers la dimension existentielle, ce que vient renforcer le choix chez Augustin du verbe ambulare, marcher, qui est celui en fait retenu déjà par la Vetus Latina, la version de la Bible latine avant la Vulgate, qui elle préfère le terme per transire, passer à travers. Quoi qu'il en soit, ce qui compte fondamentalement aux yeux de saint Augustin, c'est que le terme « image » ne qualifie pas seulement la condition déchue de l'homme, mais l'espoir d'une ressemblance à reconquérir, dont l'incarnation va réaffirmer la promesse. Or, il importe pour mon propos de souligner qu'Augustin convoque explicitement, et il n'est pas le seul, il convoque explicitement le paradigme indiciaire pour désigner cette condition imaginale de l'homme. L'image de Dieu en l'homme et de l'ordre de la trace en quête de sa matrice. Et je cite Augustin, dans le De Trinitate, « Le véritable honneur de l'homme, c'est d'être l'image et la ressemblance de Dieu, image qui ne se conserve qu'en allant vers celui par qui elle est imprimée, a quo imprimatur. Si l'homme marche dans ou comme image, il le fait donc essentiellement comme empreinte ou comme gravure. » Alors, je suis conscient qu'en parlant de gravure, j'opère là un glissement assez anachronique. Il y a déjà été question de l'anachronisme un peu plus tôt. Mais il me permet, cet anachronisme, de mettre en lumière la façon dont la révolution de l'image imprimée au premier âge moderne va résonner, on pourrait même dire entrer en phase avec cette anthropologie chrétienne de l'image. Et j'ai retenu ici un seul exemple qui me paraît assez éloquent à cet égard. C'est bien ce paradigme indiciaire qui apparaît de manière on ne peut plus explicite dans un emblème tiré du volume célébrant le premier centenaire de la Compagnie de Jésus, donc vous avez ici le frontispice, le bien nommé « Imago primi saeculi societatis Jesu », l'image du premier siècle de la Compagnie de Jésus, la Société de Jésus, publiée à Anvers en 1640. Plus précisément, et voici l'emblème, la métaphore calcographique, hein, puisqu'il s'agit bien d'une presse à gravure sur cuivre, la métaphore calcographique sert ici à rendre compte d'une des modalités de conformation ou de reconquête de la ressemblance, celle de la souffrance dans l'épreuve, pour ne pas dire du martyre. Comme vous le voyez, l'image nous montre un personnage en train d'actionner une presse à gravure sur laquelle sont accrochées les images d'un crucifix et d'une Pietà, autrement dit, deux images étroitement liées à la passion du Christ. La gravure est accompagnée d'un motto emprunté à l'Énéide de Virgile, au chant 6, « Fingitque premendo », ce qui peut se traduire par « il forme » ou « il figure » en pressant. L'adaptation néerlandaise, qui paraît la même année, opte quant à elle pour la sentence suivante, « Et geluk is in druk ». L'auteur jouant sur le double sens du mot « druk » en néerlandais, signifiant à la fois pression et souffrance. On peut ainsi traduire « le bonheur est dans la pression », c'est-à-dire dans la souffrance. Ce qui explicite le titre qui figure au sommet de la page, et qui est d'ailleurs très semblable à celui qui figure dans la version latine, donc, et que je traduis, « la société de Jésus », je traduis la version néerlandaise, « s'est perfectionnée par l'épreuve ». Dans la version latine, c'est le mot « formatur », le verbe « former » qui est retenu. C'est donc la technique de la gravure, consistant en une action violente, produite sur la plaque métallique qui est lacérée par le burin, mais aussi en une grande pression obtenue par la presse pour que l'encre, métaphore du sang, vienne révéler l'image. C'est donc cette technique qui est retenue pour exprimer l'idée suivante. Plus forte est la pression exercée, c'est-à-dire plus grande est la souffrance, plus belle sera l'image, c'est-à-dire plus parfaite sera la ressemblance. Et je cite le texte de la version néerlandaise, qu'on ne voit pas à l'écran, « Ainsi vit le Seigneur en nous, où il a ses presses sur lesquelles on doit endurer peine et souffrance. Il y a souvent imprimé la société de Jésus et créé de vrais hommes. Jamais la presse n'a failli. » Fin de citation. L'idée d'épreuve, celle de l'image imprimée, mais aussi celle endurée par les jésuites, prend ici tout son sens. Mais l'auteur de la version néerlandaise va plus loin encore, en faisant parler l'imprimeur-graveur figuré dans l'emblème, celui que vous voyez à l'instant, lequel laisse sous-entendre, cet imprimeur-graveur, que les images sorties de ses presses ont contribué à exprimer cette image jésuite. Je cite « Ma presse est célèbre pour toutes les plus belles planches qu'Albrecht Dürer et les Wyrix nous ont laissé et que grave encore aujourd'hui le maître le plus habile, car rarement l'art n'est mort avec le temps. » Fin de citation. On voit donc citer côte à côte, d'une part, le maître incontesté de la gravure dont on s'arrache les œuvres dès le XVIe siècle, à savoir Dürer, et d'autre part, une famille de graveurs anversois, les Ruyrix, qui ont bâti leur célébrité non seulement sur la reproduction et l'interprétation d'œuvres d'autres artistes, dont Dürer, mais surtout sur la création d'œuvres originales, fort peu comparables, ceci dit, et vous le constatez, à celles du maître allemand. On ne peut par ailleurs manquer de noter la façon dont ces graveurs ont rapidement été assimilés à ce qu'il convient d'appeler une véritable culture visuelle jésuite qu'ils contribuèrent à créer à la charnière des XVIe et XVIIe siècles. Ils furent en particulier les principaux exécuteurs d'une immense entreprise éditoriale qui naît dans les années 1550 et s'achève dans les années 1590, à savoir non plus l'Imago, les titres ont leur importance, ce que je viens de vous montrer, mais les Imagines, ou plus précisément les Evangelicae Historiae Imagines, donc les images des histoires évangéliques. Édité en 1593 par les jésuites anversois eux-mêmes et gravé essentiellement par les frères Wyrix, je vous montre une des planches, les 153 planches retraçant les épisodes, les différents épisodes de la vie du Christ seront accompagnées un an plus tard des méditations de Jérôme Nadal, un proche d'Ignace de Loyola, sous le nouveau titre « Dat notationes et meditationes in Evangelia ». Notons pour commencer que ce type d'image a été d'emblée conçu pour être diffusé à l'échelle internationale, comme le précise le général de la Compagnie de Jésus dans les années 1550, Francisco Borgia. Je traduis une partie de ce texte, et simplement celle, les passages en rouge, vous pouvez lire le reste. Donc, afin qu'elle soit transportée et diffusée à travers le monde, et d'énumérer ensuite l'extension de cette diffusion, les Indes orientales et occidentales, le Japon, l'Allemagne, la Pologne, l'Espagne et autres provinces. Mais la lente genèse même de cette vaste entreprise éditoriale, qui s'étend sur 4 décennies, apparaît dès le départ être une affaire européenne. Le mouvement part de Rome, où est conçu à la fin des années 50 une première série de dessins préparatoires, dont voici un exemple, attribué à Livio Agresti. C'est à ce moment que commencent les pourparlers avec plusieurs grandes villes européennes, Rome bien sûr, mais aussi Augsbourg et Paris. Le choix va finalement se porter vers Anvers, les promoteurs jésuites étant conscients du prestige acquis par cette ville dans le domaine de la gravure. Leur principal interlocuteur n'est autre alors que Christophe Planta, l'archi-typographe étant chargé de trouver les graveurs, une tâche qui va s'avérer fort complexe, tant les exigences des jésuites paraissent démesurées, et cela aussi bien au niveau du temps que de l'argent et des déplacements. Renaît alors l'idée d'une publication romaine, une réactualisation des dessins d'Agresti étant confiée à un artiste florentin, par ailleurs membre de la Compagnie de Jésus, Giovanni Battista Fiammeri. Anvers finira par emporter le marché, la réalisation des planches étant alors confiée pour l'essentiel aux frères Wirix, moyennant une rémunération importante et à condition de travailler à Anvers. C'est alors qu'un troisième artiste intervient, à nouveau romain, Bernardino Passeri, qui réalise une nouvelle série de dessins qui serviront de base à la transposition gravée. Alors, je vous montre ici dans ces séries d'images qui sont sous la même thématique, donc c'est bien une série qui concerne une même planche, il y a eu une intervention d'un autre artiste qui a retravaillé les dessins de Passeri. Cet autre artiste est Martin de Vos. Vous voyez le dessin préparatoire à gauche. À travers ces chroniques de ces incessants allers-retours entre Rome et Anvers, dont je vous ai épargné bien des étapes et bien des rebondissements, on découvre la façon dont la ville d'Anvers finit par s'imposer comme centre de production et de diffusion de la gravure jésuite, préparant ainsi la voie aux différents projets iconographiques de la Compagnie de Jésus, qui, pour la plupart, verront également le jour dans cette même ville. La principale motivation des jésuites semble avoir été la qualité du travail des graveurs anversois, dont la réputation rayonnait à l'échelle internationale. Qu'ils se soient finalement résolus, après les tentatives réitérées et désespérées de Plantin pour trouver d'autres graveurs, qu'ils se soient donc résolus à confier la réalisation de cette chose si dévotieuse, pour reprendre les termes mêmes de Plantin, de l'avoir confié au frère Wirix, véritable mercenaire de la gravure anversoise, artiste à gages qui ne tiennent que rarement leurs paroles et dont les frasques étaient notoires, tout cela a de quoi étonner, surtout par contraste avec la vie du peintre et graveur jésuite Fiammeri, un moment pressenti pour la réalisation des gravures. Comment ne pas voir une certaine ironie du sort dans le fait que les interprètes de ce qui est considéré à bon droit comme le monument d'une réforme des images furent tout ce qu'il y avait de moins orthodoxe et de moins recommandable dans le milieu de la gravure anversoise. Ce qui apparaît clairement, c'est que l'accent mis sur la dimension artistique alla de pair avec la décision de ne plus réserver cette publication à un usage interne à la compagnie. Dans ce cas, une édition romaine, somme toute confidentielle et bien moins coûteuse, avec des planches gravées sur bois par un auteur jésuite, aurait été suffisante. L'ambition qui s'impose progressivement est plutôt d'adresser cette publication à toute la chrétienté, aussi bien en Europe que dans les terres de mission. Cette ambition de diffusion internationale se trouve clairement exprimée dans la demande de financement adressée en 1593 au pape Clément VIII. C'est une œuvre extrêmement coûteuse, donc on a dû investir énormément d'argent. Donc, l'auteur de cette demande, qui s'appelle Paulus Orpheus, fait la publicité de l'ouvrage en ces termes. Et je vous traduis, enfin non, je vous ai donné la traduction, vous pouvez lire avec moi. Il en fait la publicité ainsi, une œuvre précieuse et très désirée, non seulement en Europe, par les personnes contemplatives, mais réclamée aussi par ceux de la compagnie dans les deux Indes, pour pouvoir plus facilement imprimer chez ces nouveaux chrétiens, par le moyen de l'image, les mystères de la rédemption humaine qu'ils assimilent difficilement par la voie de la prédication et du catéchisme, parce qu'ils sont en général de peu de lumière. Ce souhait sera bien réalisé, puisque les Imaginaises vont connaître une immense fortune visuelle à travers toute l'Europe jusqu'à atteindre les nouvelles terres de mission. Et je vous en donne juste un très petit échantillon que voici, en commençant par des gravures. Donc c'est toujours dans la suite de la série que je vous ai montré, des dessins préparatoires. Je vous remonte quand même vite la planche de droite, qui est le résultat final, hein, celui qui sera publié en 1593. Et puis, toutes les déclinaisons qu'on trouve un peu partout dans le médium de la gravure, évidemment, dans celui de la peinture, et ce n'est pas inintéressant, ce n'est pas que des petits maîtres. Ici, vous aurez probablement reconnu une peinture de Philippe de Champaigne, hein, clairement inspirée de la gravure de Nadal, hein, même si le fond architecturé diffère assez fort de la gravure. Mais également, et là pour vous donner du côté des deux Indes, hein, comme on les appelle à l'époque, du côté du Pérou à gauche et du côté de la Chine, de l'Asie, mais aussi du Japon à droite. Hein, en voici un autre bel exemple. Et j'aurais pu vous en donner bien, bien d'autres. Plutôt que d'envisager les différents modes d'assimilation de ces images dans l'ancien comme dans les nouveaux mondes, un champ de recherche en plein développement aujourd'hui, hein, tous ces phénomènes d'acculturation visuelle, de métissage, d'hybridation, je me suis plutôt, pour ma part, interrogé sur les raisons qui, en amont, ont rendu possible une telle diffusion internationale et une telle propension à en faciliter l'appropriation. Comment, en effet, expliquer un tel succès mondial ? Est-ce que la prise en considération des seuls relais jésuites explique cette diffusion élargie et cette marque profonde laissée dans les arts des terres nouvellement christianisées ? Cela tient-il à la qualité des gravures ? Ou encore, cela dépend-il de la forme qui a été donnée à ces images ? Si la réponse à la première question, celle concernant les relais jésuites, ne peut être qu'affirmative, elle n'explique pas tout. Il convient en effet de porter toute l'attention, c'est du moins mon sentiment, sur les aspects formels qui contribuèrent à l'établissement de ce que j'ai nommé en introduction une forme de koiné graphique, conçue pour se propager lointainement et imprégner durablement les cultures visuelles, essentiellement dans l'espace de l'Empire espagnol. Il s'agit finalement d'interroger les conditions d'émergence et d'efficacité d'une imagerie qui va être estampillée comme européenne dans les contrées extra-européennes. Pour ce faire, il faut être attentif aux termes utilisés dans la préface des Evangelicae Historiae Imaginaises. Je fais une petite marche arrière. Il y est question, je ne vais pas vous le traduire, simplement épingler quelques mots, il y est question de beauté et d'élégance mise au service de la sainteté de l'argument et de la piété du sujet, la beauté servant la piété et la sainteté rehaussant l'élégance. Cette coïncidence entre art et religion et la valorisation d'une beauté digne correspond parfaitement aux idéaux antimaniéristes de la contre-réforme, tels qu'ils s'expriment dans les arts tridentins et post-tridentins, comme dans la littérature ecclésiastique de la même époque, dont la teneur peut être résumée par cette célèbre formule d'un auteur qui a déjà été cité par Michele Bacci, à savoir Giovanni Andrea Giglio, qui écrit ceci, c'est très clair. « J'estime beaucoup plus ingénieux le peintre qui accommode l'art à la vérité du sujet que celui qui déforme la pureté du sujet pour l'adapter à la beauté de l'art. » C'est ici le principe du décorum qui prévaut, c'est-à-dire celui d'une adéquation aussi parfaite que possible entre la dignité du sujet et le traitement artistique qui en est proposé. Ce principe, tel qu'il est promu dans les littératures artistiques de l'époque, touche aux trois volets de la rhétorique. L'invention, la composition et l'expression. Appliqué aux planches de Nadal, dont voici un nouvel exemple, Ces trois dimensions semblent en effet respecter la convenance requise. Du côté de l'invention, les gravures font preuve d'une orthodoxie irréprochable, en ayant évacué tout détail anecdotique ou toute erreur théologique et historique, voire toute forme ou toute figure indécente. Il en ressort une forme de vraisemblance, voire de véracité, qui peut donner l'impression d'un rendu archéologique, impression renforcée par la présence, comme vous le notez au bas de l'image, la présence des légendes et des annotations, là vous ne les voyez pas, elles sont là, sur la page qui jouxte l'image, donc des annotations qui ancrent solidement l'image dans le texte évangélique. Du côté de la composition, les images synoptiques, une construction spatiale qui pourrait apparaître quelque peu archaïque, car elle ne respecte pas les règles, les sacro-saintes règles aristotéliciennes de l'unité de temps, de lieu et d'action, propose donc cette composition une articulation claire des scènes entre elles, facilitée par le système des lettres légendées dessinant un parcours visuel. Vous repérez les lettres dans l'image. Malgré la densité du tissu narratif, les différents moments sont donc ingénieusement agencés, de manière à ne créer aucune ambiguïté visuelle, aucun télescopage d'événements distincts, ni aucune confusion entre les différents registres de discours figuratifs, paraboles, scènes historiques, etc. Je montre que cet exemple-ci. C'est autour de la scène centrale que s'organisent les autres moments du récit, disposés de façon à ne pas distraire le regard, conduit naturellement vers l'avant-plan. Si l'importance de ces deux dimensions, celle de l'immensio et de la compositio, a déjà été relevée par plusieurs auteurs, une moindre attention a été portée à la troisième dimension, celle de l'expression, qui touche plus directement aux effets attendus sur le spectateur, à l'appréhension sensible qu'il peut ainsi avoir du message évangélique. Là encore, le respect du décorum s'impose, en évitant toute licence artistique qui aurait pu apparaître comme gratuite, ou en tout cas comme ne servant pas la dignité du sujet, laquelle nécessite un style sobre et jusqu'à un certain point même sévère ou grave, si l'on se réfère en tout cas aux catégories rhétoriques de l'époque. On peut à ce titre parler d'un langage plastique faisant preuve d'une certaine neutralité stylistique. Et je vous donne la série, donc depuis les premiers dessins des années 1550, 1560, et puis les deux autres séries jusqu'à la réalisation gravée. Donc cette idée de neutralisation stylistique me paraît assez probant, de, on pourrait dire, démaniérisation des figures, vous voyez encore quelques légers contrapostaux dans les premières séries, et puis l'annulation de ces effets stylistiques. Et on peut en donner plusieurs exemples du même type. Donc, une certaine neutralité stylistique, ou à tout le moins une volonté d'éviter toute marque distinctive d'une quelconque manière artistique, la priorité étant donnée à la lisibilité et donc à la, entre guillemets, vérité des scènes. C'est pour toutes ces raisons que Francisco Pacheco recommande vivement au peintre dans son Arte della Pintura de 1649 l'imitation des Evangelicae Historiae Imaginees, qui représente à ses yeux la verdad et il decoro, donc la vérité et le décorum. De par leur exactitude scripturaire, ces images font donc clairement autorité. Et c'est ce qu'atteste leur immense fortune visuelle dont je vous ai parlé il y a un instant. Si le système des copies successives, auquel se prête assez bien la gravure, en vient parfois à faire oublier la source initiale, il n'en reste pas moins que la connaissance de cette source importe, car celle-ci est porteuse en elle-même d'un certain idiome visuel, dont les transpositions et adaptations successives conservent toujours une trace, aussi déformée soit-elle. C'est la raison pour laquelle il convient de revenir aux caractéristiques propres à la production graphique des lyrics, au-delà des imaginaires que je viens de vous montrer, en envisageant leur haut potentiel de traductibilité. En d'autres termes, il s'agit de réfléchir à la manière dont leur gravure propose un traitement formel et thématique aisément assimilable et transposable dans d'autres médiums et dans d'autres cultures visuelles. Dans leur catalogue, qui ne compte pas moins de 2000 pièces, il est remarquable de constater la faible présence de gravures d'interprétation, de même qu'il est assez frappant de constater qu'une bonne partie de leur œuvre se base sur le principe de la variation à partir de quelques types iconographiques déclinés de plusieurs manières en variant le format, la composition, le cadrage, etc. Enfin, on peut véritablement parler, et voici deux exemples, d'une certaine forme de standardisation. Si style il y a, celui-ci penche plutôt vers un traitement assez doucereux, et dans certains cas même un peu mièvre, style qui s'adaptera parfaitement à une sensibilité spirituelle plus intimiste, plus affective, qui parle en un langage assez simple au plus grand nombre. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'imagerie saint-sulpicienne au XIXe siècle puisa à foison dans le répertoire des Wierics. C'est dans leur style que réside l'effet de séduction de ces images. Je parlais de neutralisation stylistique, mais au final, il y a toujours un style. Leur tonalité affective s'adapte assez bien à une spiritualité faisant appel plus au cœur qu'à l'esprit. On pourrait finalement avancer que des œuvres des frères Wierics se dégagent des formules iconographiques et stylistiques, pour ainsi dire, passe-partout. Or, force est de constater que ce style et cette iconographie apparaîtront bien, aux yeux de beaucoup de cultures conquises par l'Empire espagnol, comme la marque visuelle distinctive de la catholicité européenne. Qu'elles soient utilisées à des fins dévotionnelles, méditatives ou catéchétiques, les images anversoises, et en particulier celles des Wierics, firent figure d'un authentique idiome visuel aux effets expansionnistes. Lorsqu'un autre auteur jésuite, Johannes Stegius, publie à Anvers en 1647 un catéchisme en images, dont certaines planches, je vous montre un exemple, puisent leur inspiration chez les Wierics, je n'ai pas la possibilité de vous le démontrer ici, il met clairement en évidence dans le titre même de l'ouvrage l'expression de « langue des images », « Bildensprache ». Dans la préface, il raconte par ailleurs que, et pour ceux qui sont de fins connaisseurs du néerlandais, je vous ai reproduit ce passage que je ne vais pas citer in extenso, rassurez-vous, mais que je vais synthétiser. Dans la préface, il raconte que dans l'élaboration de cette langue, il fut inspiré par la lecture de l'histoire du premier centenaire de la société de Jésus, donc je boucle la boucle puisque j'avais commencé avec cet anniversaire de 1640, mais cette fois donc un ouvrage rédigé par Jacques Damien. Peu importe. Ce passage raconte la vie d'un missionnaire jésuite au Paraguay, Diego Martinez. Étudiant la théologie à Lima, ce dernier demanda au Christ ce qu'il attendait de lui. Le Christ lui répondit, à travers son image, qu'il devait travailler au salut des hommes. Martinez brûla alors tous ses écrits et pénétra dans la forêt vierge, où les âmes ne pouvaient être conquises par les oreilles, mais seulement par les yeux, car le chemin vers l'intériorité est bien plus court et bien plus sûr par ce canal. Aussi mit-il au point des tableaux, reprenant les principaux points de la doctrine chrétienne, qui se retrouvèrent ainsi profondément imprimés dans les esprits. Or, comme le souligne Stegius, cette méthode n'est autre que celle qu'appliquait déjà le Christ en usant des paraboles et ressemblances en tout genre. Ainsi voit-on naître le fantasme d'une langue universelle de l'image qui trouvera des prolongements jusqu'au XIXe siècle. Le père Bailly, maître d'œuvre du grand catéchisme en images publié par la Bonne Presse à la fin du XIXe siècle, et dont certaines planches, comme celle-ci d'ailleurs, gardent le souvenir de la Bible de Natalis, comme on l'a appelé par la suite, ce père Bailly ira jusqu'à affirmer que l'image est une Pentecôte. Mais il faut bien reconnaître que les langues de feu de l'image, prétendument universelles, ont une forte coloration européenne, pour ne pas dire anversoise. Je voudrais à présent conclure en revenant à l'idée de la marche dans l'image. Et ce n'est pas à Saint-Augustin que je vais laisser le mot de la fin, mais à l'éditeur et graveur anversois Peter Baltens, qui développe, dans la préface à l'une de ses séries gravées publiées en 1580, donc avant les Imagines, qui développe un intéressant argumentaire sur la différence entre l'Antiquité et son propre temps. Et je cite. Voici la différence que nous voyons entre l'Antiquité et le temps présent. Ce sont des choses, pour ainsi dire, fixes et immobiles que les anciens, les hommes de l'Antiquité, firent essentiellement de marbre, de bronze et d'or. Nous, nous faisons des images légères et qui, imprimées sur papier, peuvent facilement être transportées. Tel est ce que l'on considère à bon droit la meilleure manière et la plus utile pour tout le monde, car la manière antique ne peut presque seulement être utile qu'aux habitants d'une seule cité. La nôtre, errant, je souligne trois fois, errant à travers tout ce qui, de terre, se trouve sous le soleil, stimule le cœur jusqu'à des faits immenses, au même moment pour un très grand nombre de personnes qui sont éloignées les unes des autres. Fin de citation. Je retiendrai surtout de cette merveilleuse citation l'idée d'une image légère et vagabonde, le terme latin utilisé par Baltens est le terme « vagus ». Ce n'est plus l'homme qui erre comme image, mais l'image qui va et vient, qui flotte littéralement, et qui fait que l'homme, au final, marche bien dans les images. Merci.
Je remercie beaucoup Raph de Coninck pour nous avoir illustré, encore une fois, avec une grande finesse, l'importance de l'image, et notamment de l'image imprimée, de la gravure d'impression dans la circulation des images, pas seulement en Europe, mais aussi au-delà des frontières de l'Europe, avec des implications fascinante. Personnellement, j'étais interpellé par cette dialectique sur laquelle on pourra parler entre impression et expression, hein, qui se trouve un peu en filigrane de tout ce que Raph de Coninck nous a montré. On en discutera après le second volet, avant la grande pause de midi. Maintenant, on a le temps de prendre une pause jusqu'à 11h30.